France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour. Bien sûr, Manon et évidemment Werther continuent d'être à l'affiche des plus grandes scènes internationales, mais l'essentiel des quelques 25 opéras de Massenet reste peu joué. Il faut bien reconnaître que même en France, Massenet est un compositeur négligé. De son temps, il fut au contraire un des plus fêtés et son autobiographie fit l'objet d'une parution sous forme de feuilleton dans un quotidien parisien. Riche d'informations sur la vie du compositeur, bien évidemment, mais aussi de ses contemporains et de la vie musicale du second 19e siècle, ce texte fut cependant contesté par certains musicologues. Éminent spécialiste de Massenet, Jean-Christophe Branger, mon invité, en propose une édition récente assortie d'un impressionnant appareil critique qui permet d'y voir plus clair. Jules Massenet, Mes souvenirs et autres récits, par Jean-Christophe Branger, Chevrin. De Jules Massenet, c'était un extrait d'Humage par le chœur lyrique et l'orchestre symphonique Saint-Étienne-Loire sous la direction de Laurent Campone. Bonjour Jean-Christophe Branger.
Bonjour.
Vous êtes musicologue, vous êtes professeur à l'Université de Lorraine, un des grands spécialistes de Massenet. Vous préparez d'ailleurs pour Fayard une grosse et volumineuse monographie qu'on attend évidemment avec impatience. L'extrait que j'ai choisi fait peut-être démentir mon texte d'introduction puisque je disais que Massenet était peu joué et finalement ça fait partie quand même de ces résurrections que l'on doit au festival Massenet de Saint-Étienne, hein, sa ville natale où il est né donc en 1842. Mais et en même temps, ce qu'on vient d'entendre correspond peut-être pas à l'idée qu'on peut avoir de la musique de Massenet. Alors, j'ai dit que le Massenet était quand même un compositeur négligé, en tout cas méconnu en France, et même si grâce à ce festival on peut découvrir régulièrement des œuvres rares, c'est vrai que, excepté Manon et Werther, il est quand même assez peu présent.
Oui, effectivement, c'est encore un compositeur qui souffre d'un certain discrédit, il faut bien le dire, même si les choses ont énormément évolué depuis une vingtaine d'années. Mm-hmm. Et cette résurrection d'Humage en est la preuve. Ouais. Effectivement, le festival Massenet de Saint-Étienne a fait beaucoup pour cette résurrection que je viens d'évoquer. Mais je crois que, en fait, en repensant à différentes choses, en entendant cette œuvre, je crois qu'il y a un malentendu au sens premier du terme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on écoute mal et qu'on a mal écouté, et encore aujourd'hui. Il y a Massenet ou le malentendu, je trouve que ça pourrait être le titre de cette biographie, à la limite, dans le sens où on connaît Manon, on connaît Werther, et si on écoute un ouvrage qui sort un petit peu de cette esthétique opéra-comique, en fin de compte, on est surpris, on ne comprend plus du tout cette musique. Et en fait, c'est ça qui devient intéressant, parce que je crois que quand on connaît les autres ouvrages de Massenet, on apprécie beaucoup mieux Manon, me semble-t-il. C'est vraiment un compositeur qui n'est jamais là où on l'attend, ça aussi. C'est quelqu'un qui s'est renouvelé constamment, contrairement à ce qu'on a pu beaucoup dire, d'ailleurs.
C'est ça, ce qui voudrait dire, Jean-Christophe Branger, que Massenet a été très vite, enfin peut-être, je ne sais pas très vite, c'est peut-être après, catalogué dans un certain style. Est-ce que de son temps, déjà, il surprenait son public par des œuvres assez d'esthétique, assez variées, ou est-ce que c'est par la suite ?
Oui, très très vite, en fait, on l'a cantonné dans cette esthétique de Manon, cette esthétique du pastiche du 18e, qu'il fait remarquablement bien, il faut le dire, effectivement.
C'est un répertoire qu'il adorait, en plus.
Voilà, et je pense qu'il a vraiment donné le meilleur de lui-même dans le genre, on va dire, entre guillemets, léger. Effectivement, c'est peut-être pas dans les œuvres les plus tragiques où il est le meilleur, et encore que ça reste peut-être à reconsidérer. Mais très vite, effectivement, on l'a catalogué dans Manon. Et même Debussy disait, bon, il a fait des infidélités à Manon, c'est dommage. Je crois qu'il faut au contraire réécouter ses autres ouvrages pour pouvoir, encore une fois, apprécier ses ouvrages les plus connus, en fin de compte.
Mais au XXe siècle, est-ce que les compositeurs l'ont considéré différemment ou l'ont aussi catalogué comme vous venez de le faire ?
Alors, c'est très variable. En fait, il y a aussi, c'est un compositeur qui a souffert d'un discrédit et puis d'une image où il fallait presque écouter sa musique sous le manteau, si vous voulez.
C'était mal d'écouter du Massenet.
Oui, c'était, voilà. Il fallait surtout pas dire qu'on aimait Massenet. Et le plus bel exemple au XXe siècle, c'est Olivier Messiaen, qui aimait vraiment beaucoup cette musique. Et j'en ai eu vraiment la preuve à plusieurs reprises par des témoignages. Ouais. Mais il fallait pas trop le dire.
Pourquoi ? Parce que c'est des mauvais goûts ?
Parce que c'est une musique trop féminine. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans la plume des critiques. Et donc, cette image du compositeur de la femme, cette image d'une musique prétendue féminine, parce que qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est aujourd'hui quand même quelque chose de complexe.
Mais il a souffert vraiment de ça. Et je crois aussi de son vivant, c'est quelque chose qui me frappe de plus en plus, je crois que sa personnalité a agacé. Énormément, un compositeur à la fois secret et mondain, qui pouvait être trop aimable peut-être, enfin, et qui agaçait très rapidement, une personnalité qui agaçait très vite.
Allons, courage! Travaillez sous vos yeux, ô vierges. que dire faut, je cours avertir le prieur. Je commence.
Roberto Alagna, Richard Rittelmann, l'Orchestre National de Montpellier, placé sous la direction d'Enrique Dimeque, un extrait du Jongleur de Notre-Dame de Jules Massenet, Jean-Christophe Branger, une musique évidemment très différente de ce qu'on a entendu tout à l'heure, mais venons-en au vif du sujet, donc à ses souvenirs, à ce texte autobiographique, je l'ai dit, paru d'abord sous forme de feuilleton dans l'Écho de Paris, un quotidien, et puis ensuite en 1912 sous forme de livre, après la mort.
Après, quelques semaines après la mort de Massenet, mais Massenet avait supervisé l'édition sous forme de volume. Hein. C'est vraiment lui qui avait voulu, donc c'était vraiment, ça répondait à son souhait premier. Mmh. Hein, voilà.
Alors donc, dans ce texte autobiographique, Jules Massenet se raconte depuis son enfance, son séjour à la Villa Médicis, ses relations avec d'autres compositeurs, il évoque la création de ses opéras, leur réception. Mais je disais que ce texte a fait l'objet de quelques remises en cause parfois par des musicologues. Qu'est-ce qu'on lui reprochait ? Est-ce que des erreurs factuelles ou est-ce que au contraire il l'a rédigé donc à la toute fin de sa vie, avait quasiment 70 ans.
Oui, tout à fait. Alors effectivement, très très vite, on a mis en doute le fait qu'il ait pu écrire ce texte.
Ah, il y a déjà ça, d'accord. On n'est pas sûr que ce soit déjà de sa plume. Ouais.
C'est une partie de la famille qui a dit qu'il l'avait dicté. Bon, et maintenant j'en ai même la certitude et même depuis l'édition de cet ouvrage, j'ai encore avancé. Oui. C'est vraiment lui qui a écrit ce livre. Ça, c'est certain. Puis quand on connaît cette volonté de maîtrise de son œuvre, il ne peut pas l'avoir fait écrire par quelqu'un d'autre. Ça, c'est certain. Et puis, il y a ce style. Hein, il faut reconnaître que c'est un style hyperbolique, une sorte de conte de fées, où vraiment, on a l'impression que les fées se sont penchées sur son berceau, qu'il a vécu une vie extraordinaire, où il n'a rencontré aucune adversité. Or, c'est pas du tout ça. Effectivement, il embellit les choses. Alors, comment on peut expliquer ça? Je pense que c'est sa nature. C'était quelqu'un, effectivement, d'extrêmement charmant, d'après les témoignages, et qui, en fait, ne faisait pas attention à toutes les critiques virulentes qu'il a pu lire. Moi, quand je lis les critiques de la presse de son époque, je me dis qu'il fallait quand même très solide de sa part. Bon, il y a ça. Et puis, en fait, je crois que la chose la plus importante, c'est que Massenet, quand il a écrit donc cet ouvrage, était gravement malade. Il se savait probablement, il le savait qu'il était mourant. Et en fait, il avait un cancer et il était soigné en fait par des doses de morphine extrêmement importantes. Et effectivement, je pense que par moments,
Il perdait sa lucidité.
Oui, complètement, c'est ça. Et je pense que ça influe. Mais en même temps, quand on lit ses lettres, contrairement à ce que j'ai pu entendre très souvent, quand on lit ses lettres, il y a déjà ce style un peu hyperbolique, mais depuis très longtemps. Je dirais que dès qu'il commence à être connu, en fait, il va s'enfermer dans une espèce de tour d'ivoire, comme ça, où il ne doit critiquer personne, il ne dit du mal de personne. Il cherche à être aimé, parce que ça, c'est vrai que c'est quand même un compositeur qui cherche, et une personnalité au-delà de la composition, il cherche vraiment à être aimé.
Et ce qu'on a pu lui reprocher, d'ailleurs, de vouloir plaire à tout prix.
De vouloir plaire à tout prix, ça, effectivement.
Dans sa musique aussi ?
Mais bien sûr, effectivement, une musique complaisante, une musique qui plaît aux femmes, c'est ce que je lis dans la presse de l'époque le plus souvent, effectivement, une espèce de sourire permanent.
Mais alors derrière ce masque de ce personnage mondain, affable, qu'est-ce que vous avez découvert en rééditant donc
ces mémoires en creusant justement ? Triste, profond et seul. Ça, c'est quelque chose qui me frappe de plus en plus. C'est quelqu'un qui était vraiment enfermé dans une sorte de solitude, qui dans sa famille n'était pas forcément très heureux, dans son couple en tout cas, je pense. Et puis, qui avait peut-être pas tant d'amis que ça, de vrais amis. Mais il le dit d'ailleurs, comme ça, il y a une petite phrase qui est glissée dans le livre où il peut le dire. Je pense qu'il y a une forme de solitude et c'est quelqu'un qui était vraiment profondément seul, je pense.
Malgré le succès de ses œuvres, pas toutes.
Tout à fait, mais effectivement. De toute façon, à son époque, il est considéré comme un des plus grands compositeurs français. C'est certain.
Et est-ce qu'il y avait une rivalité avec d'autres compositeurs ? À un moment, on parle de Bizet, qui est mort très jeune, mais vous laissez entendre qu'effectivement, il y avait une rivalité entre les deux.
Effectivement, il y a une rivalité qui s'est installée.
Et avec Saint-Saëns aussi.
Mais c'est surtout avec Saint-Saëns. Oui, voilà. Et puis, il y avait vraiment, là aussi, une rivalité. Puis en même temps, ils se rencontraient, ils se fréquentaient. Je crois qu'ils s'appréciaient, j'en suis sûr, ils s'appréciaient mutuellement, vraiment sincèrement. Mais effectivement, il y avait une rivalité. rivalité très profonde entre les deux, ça c'est certain. Oui, oui.
Mais est-ce que, donc, pour en revenir à ces souvenirs donc, que vous rééditez, présentez avec, je l'ai dit, un appareil critique très développé et qui permet justement de faire le point et d'y voir plus clair, qu'est-ce que, puisqu'il y a donc, il faut peut-être préciser, il y avait plusieurs éditions de ce texte.
Alors, c'est-à-dire qu'il a fait ça en plusieurs temps. D'abord, il a écrit 6 souvenirs de théâtre.
Oui.
Et le succès de cette première série a incité l'Écho de Paris à lui demander d'écrire ses souvenirs. Et donc, il a écrit, effectivement, ensuite, tous les chapitres qui seront réunis en volume plus tard et qui ont été publiés. Et les 6 chapitres initiaux ont été modifiés, repris, ce qui a donné lieu, d'ailleurs, parce qu'il a repris, mais il y a quelques erreurs par moment, justement, dans cette refonte. Mais effectivement, il y a 3 étapes. Il y a ces 6 chapitres. Ensuite, il y a la publication en feuilleton. Et ensuite, le volume où il reprend son texte, parce qu'on se rend compte qu'il y a quelques petites différences.
José Van Damme, Teresa Berganza, l'orchestre du Capitole de Toulouse dirigé par Michel Plasson. C'était un extrait de Don Quichotte de Jules Massenet. Jean-Christophe Branger, ce livre « Mes souvenirs et autres récits » de Jules Massenet qui vient de paraître chez Vrin, vous avez donc réédité donc, ce texte des souvenirs, donc annoté. Et puis, dans la deuxième partie de l'ouvrage, il y a plusieurs textes de Massenet, des discours. Quelle est l'origine de ces textes que vous avez ajoutés ?
Il y a des discours, il y a quelques articles, parce qu'il a écrit quelques articles, très peu en fin de compte.
Apparemment, il n'aimait pas trop qu'on le sollicite pour écrire.
Il y a des lettres assez étonnantes.
C'est pas mon métier, moi c'est la musique, chacun son,
oui,
chacun son
exactement.
Métier.
Non, il avait un rapport à l'écrit assez difficile, visiblement. Et en même temps, il pouvait très très bien écrire, quand on lit certaines de ses lettres. Mais donc j'ai cherché à être le plus exhaustif possible, bien évidemment, en recensant tous ces discours, tous ces écrits, donc quelques-uns, comme je vous disais, puis les réponses aux enquêtes aussi, qui sont des fois très intéressantes, parce que j'ai pu retrouver les textes de ces réponses. C'est des petits articles, en fin de compte. C'est pas un simple dialogue entre un journaliste et un compositeur.
Savoir s'il fumait ou pas, c'est ça ?
Oui, il y a par exemple des choses très amusantes, comme ça. Puis ce qui rendait complexe l'édition de ce livre, c'était déjà, effectivement, de dire que c'est bien lui qui a écrit les souvenirs. Et puis, c'est qu'il est capable de se contredire, mais je crois qu'il s'amuse aussi avec les journalistes. C'est ce que j'ai mis en avant aussi à travers certains témoignages, notamment celui de Julien Torchet, qui est un de ses amis et journaliste. C'est qu'il était capable de raconter ce qu'il voulait, en fin de compte. Et il communiquait avec les journalistes, un petit peu comme aujourd'hui, pour que ça transparaissent dans la presse, mais il racontait à quelqu'un d'autre autre chose après. Donc c'est difficile de le suivre par moments.
Ah oui, donc difficile effectivement
de voir clair. Il y a un jeu, lui il s'amuse. Je pense qu'il s'amuse vraiment. Oui.
Mais justement par volonté de pour se cacher pour...
Toujours, le masque. C'est vraiment, il y a quelque chose de ravelien dans cette attitude. Il y a vraiment un masque chez Massenet qui est très, très, très présent, me semble-t-il.
Et à propos de Ravel, ça me fait penser justement à la jeune génération, les Debussy, les Ravel. Comment percevait-il Massenet?
Alors, c'est un petit peu compliqué. Debussy, c'est vraiment le poivre et le sel. C'est-à-dire que, c'est clair que quand on écoute le jeune Debussy, il y a une influence très, très nette. Et je pense qu'effectivement, Hérodiade, Manon l'ont profondément marqué parce que c'était vraiment des œuvres extrêmement novatrices quand elles ont été composées. Bon, après, il s'en est détaché, mais il a trouvé sa voie, ce qui est tout à fait naturel, j'ai envie de dire. Pour Ravel, c'est un peu plus complexe. On sait qu'il l'a rencontré en 1889 avec Ricardo Vignès pour aller écouter Esclarmonde, et Massenet leur a donné des place pour aller écouter Esclarmonde. De toute façon, c'était le compositeur, c'était une sorte de modèle, de toute façon, ne serait-ce que pour l'écriture vocale, où il était absolument fabuleux, à mon sens. Je pense qu'il est passé à la postérité. C'est une des raisons pour lesquelles il est passé à la postérité. Il a un rapport à la langue française absolument remarquable. Et puis un sens du théâtre aussi absolument indéniable. Donc, c'est très compliqué. La jeune génération, de toute façon, était empêtrée à la fois dans Wagner, mais aussi Massenet. Parce que je crois que ce sont les deux modèles.
Qui admirait Wagner, d'ailleurs. Il l'a dit dans ses textes.
Oui, tout à fait. Il l'admirait, mais là aussi, il a cherché. Alors, il dit que c'est sa classe au conservatoire qui l'a aidé à s'en détacher. Parce qu'il disait que, c'est très bien, c'est un modèle, mais il faut suivre le chemin qu'ont emprunté les prédécesseurs pour pouvoir trouver sa propre personnalité. C'est ce qu'il disait, je cite à peu près de mémoire. Voilà.
Mais alors, le travail sur la langue française que vous évoquez, Jean-Christophe Branger, à un moment, je crois que c'est dans les souvenirs, il dit qu'il apprend il dit j'apprends le poème par cœur, je sais plus, c'est peut-être à propos du Cid ou quelque chose comme ça.
Oui, c'est ça.
Donc, c'était une de ses méthodes de travail, de connaître le livret par cœur.
Une imprégnation très forte du livret.
De façon à pouvoir ensuite
et puis
imaginer
après, il compose,
les notes qui iront sous les mots.
Oui, tout à fait. Mais comme il pouvait conseiller aussi à ses élèves d'aller à la Comédie Française pour écouter la musicalité des vers, c'était vraiment quelque chose pour lui très important. Il a un sens de la prosodie absolument remarquable, qu'il peut des fois détruire aussi volontairement d'ailleurs. C'est toujours quelque chose qui le fascine, le sens de la prosodie, mais aussi comment on peut s'en détacher.
Mais alors, comment peut-on expliquer qu'aujourd'hui, excepté Werther et Manon, et bien sûr tous les opéras qui ont pu être, comme Le Mage ou Thérèse, qui ont pu être ressuscités à Saint-Étienne, il y a quand même beaucoup de titres qui restent totalement muets, je pense. Je ne sais pas, c'est ce qu'il a écrit notamment à la fin de sa vie, Ariane, Bacchus, Romate, qu'on n'entend absolument jamais.
Non, c'est vrai. Alors qu'Ariane est pour moi un de ses chefs-d'œuvre. C'est vraiment un des plus grands. Je pense que Le Jongleur aussi est vraiment un des plus grands. Alors après, il ne faut pas être dans la géographie permanente et dire que tous ces opéras se valent. Certainement pas. Mais effectivement, il y en a beaucoup qui mériteraient d'être joués. Je parlais d'Ariane, mais Chérubin, qui a été donné à Montpellier il n'y a pas très longtemps, justement, a montré que l'épreuve de la scène était... il n'y avait aucun problème. C'est une œuvre... Et j'ai pu discuter avec des musiciens qui, au début, étaient un peu réservés. Puis après, ont pris beaucoup de plaisir à jouer cette musique.
Mais est-ce que ça veut dire que ce sont des opéras qui sont peut-être difficiles à distribuer aujourd'hui? Non, je ne crois pas.
Alors, pour certains, je pense. L'exemple du Mage est typique. Et Ariane, c'est pareil. Il faut quand même des chanteurs wagnériens. C'est vraiment un opéra d'inspiration néo-wagnérienne, si je puis dire, passé au prisme français. Mais il faut des chanteurs de très, très, très grande pointure. Ça, c'est certain. Il faut des Thomas Sampson, des Van Damme, des Fleming aussi. Un Fleming qui a énormément défendu. Mais vous savez qu'il y a aussi une forme de frilosité. J'ai eu l'occasion de discuter à plusieurs reprises avec Richard Boninge, qui me disait que même avec Sutherland, c'était très difficile d'imposer Massenet à son époque. Il a réussi à le faire, mais c'était très difficile parce que les maisons de disques sont très frileuses, les théâtres encore plus, donc c'est très dur, c'est très difficile.
Je mets sur le papier luisant que ma tendresse vous destine, toute mon âme est à présent fidèle à s'allonger les lignes bleues. courageuse, si sage et froide sous ma main, et dès la longtemps caressée, saura vous obliger demain à me donner.
Didier Henry, accompagné au piano par Angeline Pont-de-Père, interpréterait la lettre de Jules Massenet, la lettre, puisque nous parlons d'écrit, de Jules Massenet. Ça tombe bien, Jean-Christophe Branger. La mélodie tient une part assez secondaire quand même dans l'œuvre de Jules Massenet, ou je me trompe?
Non, je crois qu'on ne peut pas dire ça, parce qu'il en a écrit quand même plus de 150, je n'ai pas le chiffre exact en tête, hein, et puis on en retrouve d'ailleurs assez régulièrement, publié dans des revues.
En tout cas, elle reste rarement entendue.
Non, effectivement. Mais alors qu'il a eu un rôle très important, c'est quand même un des premiers à introduire le cycle avec piano. Bon, il y a les Nuits d'été, certes, mais c'est vraiment un des premiers à être influencé par le cycle schumannien, donc avec son poème d'avril notamment, qui a ses particularités puisqu'il intègre de la déclamation parlée également, ce qui est tout à fait original. Non, la mélodie, en fait, le suit pendant toute sa vie. Puis c'est peut-être aussi un terrain, je dirais pas d'expérimentation, mais parfois, par exemple, avec les expressions lyriques à la fin de sa vie, où c'est un cycle absolument étonnant, où on déclame, on chante, et une espèce d'alternance entre les deux. Mais il avait besoin d'écrire, puis il adorait la poésie. Hein, c'était vraiment... mais il y a des lettres absolument étonnantes où il s'ennuie, il est à Monte Carlo, il voit un recueil d'Hugo... Et il décide d'écrire trois mélodies. Voilà.
Très bien. Merci beaucoup, Jean-Christophe Branger. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Jules Massenet, Mes souvenirs et autres récits, qui vient de paraître chez Vrin. Merci à Béatrice Trichet, à Philippe Brodin et à Annie Comier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mais bien évidemment, vous restez à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.